C'est pas du vent. C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Bras.
Bonjour, la croissance, les marchés, les bénéfices, faut que ça monte, il en faut plus, toujours plus. Pourquoi ? Eh bien pour que tout le monde en profite, pardi. Oui, mais ça ne marche pas, les inégalités s'accroissent à un rythme effrayant, les ressources naturelles ne sont pas infinies, les votes pour les partis extrémistes s'amplifient. On nous aurait donc menti, le produit intérieur brut dont se gargarisent tous les États ne serait pas la bonne boussole. Eh bien oui, il faut donc sortir de la croissance. C'est le titre du dernier livre de notre invité, l'économiste Éloi Laurent. Reste à savoir comment.
C'est pas du vent sur RFI.
À Santiago, au Chili, ils étaient encore des centaines de milliers à manifester à l'appel lancé par les étudiants. La décision d'établir l'état d'urgence dans la capitale et dans 9 autres régions du pays a suscité un vif émoi.
Et qu'ils réagissent un peu et qu'ils enlèvent les militaires des rues, parce que agir avec violence, ça va faire énerver encore plus les gens.
Ils sont encore plus nombreux que d'habitude, car cette fois-ci, les manifestants algériens veulent marquer le coup. En plus de protester contre le gouvernement comme ils le font chaque semaine, il célèbre aussi en ce 1er novembre le déclenchement de la guerre contre la France il y a 65 ans.
À l'étranger, c'est un mouvement de contestation sans précédent au Liban avec une 4e journée de manifestation pour dénoncer la corruption de la classe politique. Hommes, femmes, enfants, vous les voyez, ont convergé vers le centre de Beyrouth et le mouvement a déjà gagné 2 nouvelles villes du pays.
Du Chili à Hong Kong, en passant par le Liban et l'Algérie, la jeunesse est dans la rue pour crier son ras-le-bol des inégalités sociales, sa soif d'un avenir prometteur aussi, et leurs aînés emboîtent le pas. Bonjour Éloi Laurent.
Bonjour.
Vous êtes économiste senior à l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques. Vous êtes professeur à Sciences Po et à l'Université de Stanford. Et vous venez de publier « Sortir de la croissance, mode d'emploi » aux éditions « Les liens qui libèrent ». Alors que vous inspirent toutes ces révolutions spontanées que les États n'arrivent pas à endiguer et qui sont parties avec des petits claques d'allumettes hein, finalement suite à la hausse du prix du ticket de métro au Chili ou à une taxe sur l'utilisation des messageries comme WhatsApp au Liban.
Ce que ça m'inspire, c'est que pour comprendre le monde dans lequel nous sommes, manifestement, la croissance, le niveau du PIB par habitant, c'est-à-dire un indicateur qui porte sur la richesse et non pas sa distribution, ne permet pas précisément de comprendre toutes ces révolutions. C'est-à-dire, ce qui permet de comprendre les révolutions, ce qui permet de comprendre cette ébullition du monde dans lequel nous sommes, à l'évidence, sont des indicateurs d'inégalité, des indicateurs d'injustice sociale. Le cas du Chili est tout à fait parlant, puisque le Chili, c'est un des rares pays non occidental à faire partie de l'OCDE, donc un niveau de richesse par habitant, on dirait de développement, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, on mesure le développement à l'aune du PIB par habitant, donc un pays qui est prospère de ce point de vue-là, est en fait un pays qui est extrêmement fragile parce qu'il est fragilisé par les inégalités. Et que c'est un des pays les plus inégalitaires du monde quand on prend non pas des indicateurs de production ou de richesse divisés par le nombre d'habitants, c'est-à-dire un niveau moyen qui ne nous dit rien de la répartition du revenu, mais en fait des inégalités, des indicateurs d'inégalité de revenus. Et là, on comprend tout de suite que la fabrique de la société chilienne est extrêmement friable et qu'en fait, c'est une société qui ne tient pas ensemble parce que les inégalités sont comme un acide qui la ronge. Et c'est intéressant parce que les États-Unis, qui en apparence sont très loin du Chili, en fait, présente exactement le même type d'illusion en termes de niveau de richesse par habitant. C'est un pays très riche. En réalité, c'est une nation profondément fragilisée par les inégalités où on peut tout à fait avoir ce genre de révolte un jour qui éclate.
Alors, que s'est-il passé finalement ? Comment en sommes-nous arrivés au fait que le PIB soit le thermomètre de la majorité des pays qui n'ont tous qu'une seule et même obsession, la croissance ?
Ça s'est passé historiquement en deux temps. Le premier temps, c'est la Grande Dépression aux États-Unis, les années 30. les membres du Congrès américain veulent avoir un indicateur synthétique, systémique, qui leur donne une idée de ce qui est en train de se passer dans toute l'économie américaine. Parce qu'ils pressentent que c'est une crise qui est en train de se passer, qui est globale. Et ils n'ont pas d'indicateur global pour mesurer la crise. Ils
vont donc c'est après la crise de 29.
La crise de 29, au cœur de la Grande Dépression, ils vont aller voir Simon Kuznets, qui est un économiste d'Harvard, et ils vont lui demander de construire ce qui va être la maquette du produit intérieur brut, le PIB préhistorique, si on veut, ils vont lui demander, en fait, de construire un indicateur donc synthétique global. C'est très intéressant parce que ça nous dit d'emblée que le PIB n'est pas un indicateur qui mesure le bien-être, c'est même pas un indicateur qui mesure le développement, c'est un indicateur qui mesure la crise. C'est un indicateur de dépression, c'est pas un indicateur de développement quand il est inventé. Donc là, on est en 1932-34. Ensuite, à la conférence de Bretton Woods en 1944, donc grosso modo 10 ans après, on a le passage de flambeau entre le Royaume-Uni et les États-Unis pour le leadership mondial. Et là, le PIB, les travaux autour du PIB se sont renforcés autour notamment de John Maynard Keynes, l'économiste britannique. Et les États-Unis vont imposer le PIB comme mesure du développement. Après Bretton Woods, après 1944, on est développé si on a un certain niveau de PIB par habitant. Et depuis lors, c'est-à-dire ça fait quasiment 80 ans, on est toujours dans ce paradigme de cette erreur fondamentale qui d'ailleurs avait été dénoncée par l'inventeur du PIB lui-même. Simon Kuznets avait mis en garde dès l'invention du PIB pour dire que ça n'est pas un indicateur de bien-être. Et notamment, un des arguments fondamentaux, ça nous ramène au Chili, c'était que ça n'est pas un indicateur de bien-être parce qu'il ne mesure pas les inégalités.
Et alors c'est fou parce que vous le racontez dans votre livre, hein, dès 1968, le sénateur américain Robert Kennedy alertait lui aussi sur le fait, hein, je le cite, que le PIB ne tient pas compte de la santé de nos enfants, de la qualité de leur instruction, ni de la gaieté de leur jeu. Il ne mesure pas la beauté de notre poésie ou la solidité de nos mariages. Il ne songe pas à évaluer la qualité de nos débats politique ou l'intégrité de nos représentants. Il ne prend pas en considération notre courage, notre sagesse ou notre culture. En un mot, le PIB mesure tout sauf ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue.
C'est super parce que Kennedy, le frère de JFK, nous dit là, au fond, toute la pluralité du bien-être humain. Ce qu'il dit, c'est que le bien-être humain, une vie heureuse, dirait, aurait dit Aristote, c'est quoi ? Bah, c'est en fait, pour tout le monde, instinctivement, la santé, l'éducation, le bonheur, le temps passé avec ses enfants, avec ses amis, donc le temps libre, et puis plus largement, les institutions, les inégalités, la confiance, et puis plus largement encore, les dimensions de la biosphère, la qualité de l'air, la qualité de l'eau, etc.
Tout ce que le PIB ne mesure pas.
Bah, quand vous faites le rapport entre cette... tous ces horizons du bien-être et ce que mesure le PIB, ce que je montre à un moment dans un graphique dans le livre, c'est qu'en fait le PIB mesure une part minuscule de tout cela. Et évidemment au 21e siècle, quand on a sous les yeux la crise des inégalités, les crises écologiques et la crise démocratique, bah, ça nous saute au visage. On est en fait prisonnier d'une boussole qui est une boussole du 20e siècle, voire même du 19e siècle, et on est au début du 21e siècle avec des crises qui sont absolument gigantesques sur les bras et on n'a pas d'indicateur fiable. Le problème, c'est que les gens pensent que la croissance est quelque chose d'abstrait, de philosophique qu'on pourrait mettre en adéquation avec le progrès. Mais c'est pas ça la croissance. La croissance, c'est un indicateur particulier et ça engage les politiques publiques. C'est que c'est la croissance, c'est la croissance du PIB et le PIB, il est encastré dans nos politiques publiques. Donc quand on fait des politiques économiques aujourd'hui dans le monde entier, que ce soit en France, en Afrique, en Asie, on prend ça comme référence. Et si vous voulez faire augmenter le PIB, vous allez faire des politiques publiques qui vont faire augmenter le PIB, y compris au détriment de toutes les autres dimensions du bien-être. C'est-à-dire que vous allez détruire l'éducation pour faire augmenter le PIB. Vous allez détruire les écosystèmes pour faire augmenter le PIB, etc., etc. Donc, c'est effectivement gravissime.
Mais ça fait un moment qu'on dit cela. Donc, comment est-ce qu'on peut expliquer qu'aujourd'hui, en 2019, on en soit toujours là ? Tous les présidents des grands États sont entourés de multiples conseillers qui ont fait des brillantes études. Enfin, vous n'êtes pas le seul à dénoncer à quel point le PIB est un mauvais indicateur et à quel point il faut urgemment sortir de la croissance. Pourquoi est-ce que, malgré tout, encore en septembre, là, Emmanuel Macron, président français, disait oui, il faut absolument privilégier la croissance et c'est loin d'être le seul.
Ah, c'est plus que ça. C'est qu'en France, on fait des lois pour la croissance. Vous avez, dans le titre des lois même, et c'était le cas sous la présidence Hollande comme sous la présidence Macron, des lois qui sont faites explicitement pour la croissance. C'est-à-dire, on fait, par exemple, des lois de transition énergétique pour la croissance verte.
Mais il vient d'où ce bug ?
Non, c'est pas un bug, c'est que ces conversations profondes, un jour l'économiste et philosophe Amartya Sen m'a dit « Les conversations intellectuelles ne se terminent jamais. » C'est-à-dire que l'idée selon laquelle il y a un camp qui a raison, l'autre qui a tort, et puis c'est terminé, on n'en parle plus, c'est pas comme ça que ça se passe. Les arguments, ça dure pendant des décennies. Donc en effet, ça dure depuis longtemps. La première critique de la croissance, on la trouve au cœur de la révolution industrielle. C'est John Stuart Mill, l'économiste philosophe libéral anglais, qui, alors même que la croissance économique est en train d'être inventée autour de lui, en formule la critique. Une critique extrêmement puissante. Vous la relisez aujourd'hui, un siècle et demi après, c'est incroyablement puissant. Mill dit, en fait, fondamentalement, on fait augmenter une prospérité artificielle en détruisant la planète et en créant des injustices sociales, et ça n'a absolument aucun intérêt pour ce qui est la vie humaine. Donc, c'est exactement le point aujourd'hui. Sauf que à l'époque, c'est une critique philosophique. Puis dans les années 70, vous avez une critique empirique de la croissance, avec des économistes qui commencent à dire, bah, construisons des indicateurs alternatifs au PIB. Et là, moi, ce que je dis, c'est qu'on est entré depuis peu de temps, en réalité, dans l'âge politique de la critique de la croissance. Avec les objectifs du développement durable de 2015, votés unanimement aux Nations Unies, on est entré dans l'idée que le PIB qui représente un demi-objectif sur les 17 dont on dit au pays « voilà ce qu'il faut viser si vous voulez être une nation prospère au 21e siècle », et bien là, on entre dans un âge politique. Mais 2015, c'était il y a 4 ans, si vous voulez.
Et résultat, 4 ans plus tard, il y a quoi? Une vingtaine de pays qui ont réellement inscrit leur objectif de développement durable dans leur stratégie économique.
Il y en a environ 25. On peut critiquer la façon dont c'est fait de façon plus ou moins cosmétique. La France, d'ailleurs, est un bon exemple de ce point de vue-là parce qu'on a des tentatives qui, en réalité, sont assez cosmétiques. Mais regardez, en 2019, vous avez deux pays qu'on peut juger comme des petits pays dans le monde, mais qui sont des pays significatifs, qui sont la Nouvelle-Zélande et la Finlande, qui, pour la première fois, placent le bien-être comme boussole explicite de leur politique budgétaire. La Nouvelle-Zélande avec le premier budget de bien-être voté en mai dernier, et la Finlande avec ses deux objectifs qui sont d'un côté le fait d'être une nation non discriminatoire et de l'autre d'utiliser les ressources naturelles de façon à peu près raisonnable. Donc, si vous voulez, en réalité, ça progresse. Ça progresse tout à fait à grande vitesse. On est là en 2019, 10 ans après la publication du rapport Stiglitz, qui a complètement relancé cet agenda. Mais une fois de plus, ces arguments-là sont des arguments au long cours, de long terme. Ça fait 70 ans, 80 ans qu'on vit avec le PIB. On ne va pas s'en débarrasser comme ça du jour au lendemain. Mais en réalité, les choses progressent.
Et c'est quoi un budget de bien-être à la finlandaise?
Un budget de bien-être à la néo-zélandaise.
Ah, c'est les néo-zélandais.
C'est les néo-zélandais. C'est de considérer que la priorité numéro un, c'est la santé, et en particulier la santé des enfants. Alors, je vous pose la question. Imaginez n'importe quelle nation dans le monde qui décide que la priorité désormais, l'objectif prioritaire, c'est la santé des enfants. Est-ce que vous voyez la révolution incroyable que ça suppose quand vous décidez que les politiques publiques que vous allez mettre en œuvre doivent faire augmenter la santé, améliorer la santé des enfants? Vous voyez un petit peu tout ce qu'il faut changer, par exemple dans une ville comme Paris, sur la pollution de l'air, sur la question de l'alimentation, etc. Ou n'importe où dans le monde. Ça et la santé physique et mentale. Donc vous voyez là aussi, ça veut dire que vous allez commencer à essayer de mesurer ce qui dégrade ou ce qui ne dégrade pas la santé mentale. Pensez à l'effet de la transition numérique aujourd'hui sur les systèmes cognitifs des enfants. Donc c'est une révolution totale. Quand vous changez le but que vous visez, en fait, fondamentalement, c'est une révolution. On peut dire, oui, mais vous restez dans un système capitaliste, donc en fait, vous ne changez pas vraiment le système. Changer le système de la croissance, c'est révolutionnaire.
Alors ça avance, c'est ça la bonne nouvelle, c'est ça ce qu'on va retenir. Juste avant de faire une petite pause musicale, vous restez avec nous, Éloi Laurent, et on écoute l'Indigo.
T'es vraiment toi, j'en dis la casbana. Sauf qu'elle est grande comme Binibéa. Moi, parti là-bas, ma tanza. Parti même Maloya là-bas, mon frère. Banana, banana. Yo canto, yo canto. Là-bas,
L'Indigo dans C'est pas du vent sur RFI.
C'est pas du vent. Pour nous écrire, c'est pas du vent, @rfi.fr.
Et nous sommes en compagnie de l'économiste Éloi Laurent qui vient de publier « Sortir de la croissance, mode d'emploi » aux éditions Les Liens qui libèrent. Éloi Laurent, vous nous avez expliqué que la croissance économique était un mythe destructeur, que le PIB est un mauvais indicateur. Malheureusement, ce modèle économique occidental est devenu une référence mondiale après laquelle courent tous les pays dits en développement, notamment les pays africains. Or, pour l'économiste Félouin Sarr, auteur d'Afrotopia, l'Afrique n'a personne à rattraper. Elle doit marcher prestement sur le chemin qu'elle a choisi pour devenir un espace où se réinvente l'humanité en tenant compte des défis écologiques. Il explique notamment que le continent pourrait s'inspirer des mourides au Sénégal.
C'est un exemple intéressant parce que voici des gens qui ont fondé une économie matérielle sur une économie relationnelle. En fait, ce qu'on oublie, c'est que l'économie n'est pas naturelle. L'économie est une anthropologie et l'économie est d'abord un fait social, un groupe humain dans un lieu, une géographie, à des ressources, à des contraintes, a des besoins. Avec ça, il essaie de trouver un modèle qui fonctionne. Et toute l'anthropologie économique nous montre qu'en Tasmanie, quand il y a des sociétés de l'abondance ou des sociétés du don et du contre-don, c'est parce que ça répond à un contexte. Ça répond à une écologie des ressources. Ça répond à une géographie. Et à l'intérieur de ça, les groupes humains sont intelligents. Essayent de trouver les modes de production, de répartition de la plus-value, les modes d'échange qui sont adéquats à leur système. Et que l'économie néolibérale capitaliste est un fait social. Les groupes humains ont répondu à leurs besoins économiques durant des millénaires sans cette forme-là. Et cette forme, elle est apparue à un moment donné.
Ça ne fait que 150 ans, finalement.
Voilà, ça ne fait que 150 ans sur la grande histoire de l'humanité. Et cette forme-là, arrivée au cœur de ces contradictions internes, disparaîtra. Et que donc, du coup, ce n'est pas une parole d'évangile. Et ce modèle essaie de nous faire croire qu'il est le seul, issu d'une longue évolution, et que c'est le dernier jour, quoi, le jour où Dieu se repose, le dimanche éternel, et rien ne se passera plus. Ce n'est pas vrai. D'ailleurs, beaucoup d'économistes très sérieux ont commencé à travailler à l'économie post-capitaliste, ont commencé à se poser des actions de savoir. Mais si on n'a plus de système financier, comment on fait? Comment on fait circuler des échanges? Qu'est-ce qui va prendre la relève? Si on n'a plus de banque, comment ça va marcher? Etc, etc. Donc, il faut, du point de vue des chercheurs, il faut cette réflexion prospective. Mais peut-être qu'il faut aussi redescendre du point de vue des sociétés et se rendre compte que les individus sont les experts de leur propre vie. Les sociétés humaines sont très créatives et elles n'attendent pas les théoriciens pour trouver des solutions au jour le jour, pour essayer des stratégies et sélectionner celles qui fonctionnent. Et on a une économie en Afrique qu'on appelle l'économie informelle, qui nourrit plus de 60% des Africains, qui a une vision intégrative des fonctions d'allocation et de redistribution, mais en même temps, qui est hyper formalisée, sauf qu'elle n'est pas formalisée sur les mêmes codes et sur la même axiologie que l'économie classique.
C'est presque une insulte de l'appeler l'économie informelle.
Oui, parce que justement, on la réfère en négatif par rapport à une économie qui serait, elle, la bonne économie, l'économie formelle. Et au lieu de voir que c'est une économie populaire fondée sur une socioculture et qui a ses codes et qui est formalisée sur la parole donnée, sur la confiance, sur la fiducia, sur un certain nombre de choses, sur le capital social et symbolique, et qui justement produit des résultats intéressants, qui a des limites et des faiblesses, bien sûr, qu'il faut regarder en face, mais qui a dans d'autres domaines des résultats absolument importants. Au lieu de regarder comment ces résultats, on les améliore, comment on les comprend, comment on leur fait changer d'échelle, etc., etc., puisque ça fonctionne sur des ressorts qui sont profondément là, non, on essaie de la formaliser.
Et donc il faut relancer l'imaginaire.
Oui, la grande difficulté, c'est que c'est un travail à plusieurs niveaux. Il y a un travail épistémologique et théorique dans les laboratoires de recherche, etc., etc. Il y a un travail dans les imaginaires. Et je pense que déjà ce travail-là, il se fait. Il y a des individus qui essayent des économies sociales et solidaires, qui essayent d'autres modèles d'échange, qui essayent des alternatives dans leur coin, qui veulent consommer différemment, qui veulent de la décroissance, qui veulent de la déconsommation, etc. etc.
Oui, on voit des circuits courts en agriculture qui sont en train de se développer.
Sauf qu'ils sont chacun atomisés dans leur coin et ils n'ont pas le sentiment de faire un système.
Donc il faut se fédérer aussi.
Oui, 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 puisque justement, le fait de leur atomisation ne leur donne pas l'exacte mesure du mouvement de fond que c'est. Et le problème, c'est que le système en place dit « Quel est le système alternatif que vous proposez ? Et montrez-nous un système global qui remplace celui-ci. » Alors que non, il n'est pas né global. Il a progressé, essaimé, grandi. Et c'est ça l'idée. Et qu'il n'est même pas sûr qu'il faille remplacer ce système global ou total par un système total. Je ne suis même pas sûr que c'est ça la réponse. Et que la quête, c'est de dire « Il faut trouver un système aussi total que celui-ci pour mettre à la place. » Non. Peut-être que c'est la localité, peut-être que c'est justement des expériences plurielles, multiples, mais qui s'intègrent dans des contextes et qui font sens dans des contextes, qui sont les vraies alternatives. En fait, la pluralité des réponses, ça c'est absolument mon fondamental. Considérer qu'en fait une réponse s'inscrit dans un lieu et dans un contexte, et que dans un contexte, on peut trouver des réponses intelligentes, celles-ci peuvent être dupliquées ou pas. Lorsque j'observe la manière dont les économies dites informelles fonctionnent, il y a énormément de ressources créatives et des choses qui sont inspirantes sur lesquelles on peut construire. Mais à condition de les regarder avec respect et estime, à condition de ne pas considérer que c'est des formes qui sont embryonnaires et qu'il faut rapidement formaliser, industrialiser, capitaliser et les mettre dans un moule qui est censé être le moule qui est dominant. Et je pense que là, on est vraiment à la croisée d'une problématique qui est une problématique économique et sociale et d'une problématique qui est liée à des ordres du savoir et à des ordres qui ont la crédibilité d'être le discours scientifique crédible et celui que l'on doit mettre en place. Il y a un travail à faire là-dessus, sur l'idée qu'il y a une pluralité d'archives, il y a une pluralité de ressources cognitives. Et que, oui, il y a eu une archive sur laquelle on s'est fondé ces 5 derniers siècles, elle a beaucoup apporté, mais que peut-être qu'elle s'épuise et qu'elle ne peut pas apporter toutes les réponses. Et que le monde est beaucoup plus riche en potentialités et en possibilités d'archives cognitives. Et que si nous voulons répondre à la multiplicité des défis qui s'offrent à nous, il faut que nous ouvrions la possibilité de nous ancrer sur des archives différentes. Et c'est ce que nous avons du mal à faire. Parce qu'un savoir, une épistémologie, soutient un ordre politique, culturel et social. Mais il fait mieux que ça. Un savoir régule notre compréhension du monde. Un savoir nous montre un monde parmi les mondes en potentialité. Et quand il régule notre compréhension du monde, il régule nos subjectivités. Quand on a une pluralité d'épistémologie, on voit la pluralité des mondes qui existent. On voit la pluralité des possibilités qui existent en termes économiques, sociaux, politiques et culturels. Et du coup, on a un monde qui devient d'un coup beaucoup plus riche. Il est beaucoup plus riche, mais nous ne voyons pas cette richesse-là ou nous ne lui faisons pas droit. Nous ne lui accordons pas le crédit que nous devions parce que justement, nous sommes pris dans un ordre hégémonique, dominant, qui prétend avoir la solution pour tout et être la seule solution.
Éloi Laurent, comment réagissez-vous à ces propos de l'économiste Félouin Sarr ?
Il y a beaucoup de choses très intéressantes qui sont dites. La première chose, c'est que l'économie, c'est la réalité superficielle de la raison profonde de la prospérité humaine, qui est la coopération sociale. La raison pour laquelle, en effet, l'espèce humaine est prospère, particulièrement depuis 2 siècles et demi, mais en réalité une prospérité spectaculaire quand on la prend dans le temps long, c'est pas le marché, la croissance, etc. C'est la coopération sociale. Et ça, c'est le moteur de la prospérité. Et la finalité de la prospérité, ce n'est pas la croissance, c'est le bien-être. Donc s'il fallait définir l'économie, moi, je la définirais comme la coopération pour le bien-être. Et une fois qu'on a dit ça, un monde, en effet, de complexité, de variété s'ouvre à nous. Et donc, on se demande en effet ce qui est universel. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de choses universelles. Par exemple, si vous interrogez les humains à travers la planète sur la dimension la plus essentielle du bien-être à leurs yeux, la première réponse, à peu près systématiquement, c'est la santé. Donc, s'il y avait quelque chose d'universel, ça ne serait pas la croissance, ce serait la santé. On parlait de la santé des enfants, c'est peut-être une des valeurs sur lesquelles on est capable de se mettre d'accord partout dans le monde.
D'ailleurs, il y a un rapport mondial annuel sur le bonheur depuis 2012, oui, qui met notamment les liens sociaux.
Les liens sociaux. C'est-à-dire, si vous dites quelle est la dimension la plus importante de votre bien-être, les gens répondront la santé, et de votre bonheur, qui est l'évaluation subjective du bien-être, les gens disent les liens sociaux. Et ça, on peut penser la santé, les liens sociaux, que c'est effectivement à peu près universel. Partout. Sauf qu'on ne s'est pas mis d'accord là-dessus. On s'est mis d'accord sur un critère universel qui est la croissance, c'est-à-dire la monétarisation de biens échangés sur des marchés et leur agrégation sous forme de valeur ajoutée multiple qu'on agrège dans un indicateur synthétique, qui est le PIB et sur lequel on fonde la croissance. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, l'économie informelle, en fait, c'est la trame des sociétés et donc de l'économie. C'est-à-dire ce qu'on appelle l'économie informelle. Pourquoi c'est un problème pour les statisticiens? Parce qu'on ne le compte pas. Donc du coup, on dit c'est informel parce qu'au sens de c'est invisible. Ce n'est pas formel, c'est-à-dire comme il n'y a pas de marché et donc il n'y a pas de prix, etc., ça pourrait poser un problème parce que des pans entiers de l'activité économique vont échapper à la comptabilité et aux statistiques. Sauf que ce que ça nous dit, c'est que dans une économie dite de marché, les transactions les plus importantes, ce ne sont pas des transactions marchandes. Dans une économie de marché, y compris dans des économies comme la France, l'Afrique du Sud, etc., des pays qui sont soit développés, soit émergents, les transactions les plus importantes sont des transactions qui n'ont pas de prix, qui ne sont pas marchandes. C'est la confiance, c'est les liens sociaux, c'est les institutions, etc., etc. Donc, ce qu'on appelle l'économie informelle, ça n'est rien d'autre qu'en fait la trame secrète, invisible, de ce qui sous-tend la coopération sociale. Et puis, troisième point, l'avenir, c'est-à-dire, en effet, le changement climatique, les chocs écologiques. Qu'est-ce qui est le plus résilient face à ça? Qu'est-ce qui va le mieux résister face à ces chocs? Est-ce que ce sont des sociétés totalement homogénéisées autour d'un modèle supposé universel qui donc va provoquer des crises systémiques à répétition et qui vont être partout pareilles à travers la planète puisque le modèle sera le même? Ou est-ce que c'est une forme de biodiversité humaine, de biodiversité, de ces différents modèles sociaux? On voit ça très bien en agriculture, de quelle façon on passe d'une monoculture à une forme d'agroécologie qui est une forme de biodiversité humaine, de biodiversité institutionnelle. Et donc la question que ça pose, c'est est-ce qu'on n'a pas besoin fondamentalement aujourd'hui de cette biodiversité humaine pour pouvoir faire face à ces chocs? Pour toutes ces choses-là, pour toutes ces raisons-là, il faut sortir de la croissance.
Et donc, c'est aussi ce que disait Phil Winsar, les individus qui sont les experts de leur quotidien. Donc ça veut dire qu'il faut aussi peut-être, si on sort de cette notion de croissance, de ce diktat du PIB, et qu'on se relocalise davantage dans la mesure où c'est possible, dans un contexte globalisé, mondialisé, quand même, avec des échanges qui se situent pas à l'échelle du voisin, mais à l'échelle de continent. Peut-être qu'à ce moment-là, on sera plus aussi dans la résilience écologique.
Oui, et ça veut dire aussi qu'il faut commencer tout indicateur, non pas par un travail d'expertise, mais par une enquête sur le bien-être. Par exemple, si vous prenez ce qu'on fait au Canada, en Nouvelle-Écosse aujourd'hui, il y a une grande enquête sur le bien-être qui vise à interroger les gens sur une base de communauté de vie, c'est-à-dire de localité plutôt qu'au niveau national, parce que le PIB, c'est aussi quelque chose de national. C'est-à-dire que la croissance qu'on mesure, c'est fondamentalement une échelle nationale qu'on la mesure. Voilà. Donc la question, c'est quel est par exemple le bien-être dans telle ou telle localité, dans telle ou telle région, et c'est comme ça que ça commence, et c'est comme ça qu'on peut mettre en place des politiques. C'est pour ça que dans le livre, moi j'en appelle à une sortie de la croissance à tous les niveaux, au niveau bien sûr global avec les Nations Unies, au niveau de l'Union Européenne, au niveau des nations, mais aussi au niveau des territoires, au niveau des localités.
Alors, on va revenir aux localités dans un instant. Vous parliez de l'impact écologique de la croissance. C'est vrai que dans votre livre, vous parlez en termes de flux, en fait. Vous dites qu'il y a les flux de carbone, les flux de transport, les flux d'eau virtuelle. Les chiffres sont effrayants, quand même. C'est-à-dire que cette omniprésence de la croissance, qui est donc un leurre, comme vous nous l'avez expliqué, nous a mis dans le mur. Ça va être dur d'en sortir. Là, on est dans une situation catastrophique.
C'est pas catastrophique, mais c'est une situation extrêmement préoccupante. Et pour l'apprécier, il nous faut des indicateurs biophysiques quantitatifs. Si vous regardez l'accord de Paris, le premier accord universel sur le climat qui a été signé en 2015, à aucune instance, il n'est fait mention de croissance économique. À vrai dire, il n'y a que deux chiffres dans l'accord de Paris. C'est 1,5 et 2. Et c'est 1,5 degré et 2 degrés. C'est-à-dire que c'est un indicateur biophysique qui nous dit qu'il ne faut pas dépasser une limite planétaire. Donc, ça veut dire qu'à plus de 2 degrés ou à 3 degrés, un PIB à 3% n'a plus aucune espèce d'importance. Donc, ce que ça nous dit, c'est qu'en fait, il faut repenser toutes nos politiques publiques à l'aune de cet indicateur qui est l'indicateur devenu extrêmement important au XXIe siècle, qui est un indicateur de la biosphère et qui n'est pas un indicateur monétaire.
En tout cas, il est urgent de repenser notre rapport au monde puisque notre planète n'a pas les moyens de nos ambitions, en tout cas n'a plus les moyens de nos ambitions. Et bel exemple d'hypocrisie, la révolution numérique, vous en parlez beaucoup aussi dans votre livre, qui soi-disant dématérialise beaucoup nos actions. Or là aussi, c'est un leurre, comme l'explique Guillaume Pitron, auteur de La guerre des métaux rares, la face cachée de la transition énergétique et numérique, publié aux éditions Les Liens qui Libèrent.
Il faut quand même comprendre que le numérique repose sur un postulat qui est un leurre total. c'est l'idée que parce que nous allons vers le digital, nous allons nous affranchir de la matière. Ah bah oui, c'est beaucoup mieux de pouvoir envoyer un email plutôt que d'avoir à écrire une lettre sur du papier qui est de la matière physique et de la faire transiter via une voiture qui génère du CO2. Mais en réalité, un email, ça a un coût environnemental considérable, un email. Et toute l'infrastructure, le léviathan numérique qui se trouve derrière un simple email et qui plus est derrière un algorithme, c'est quoi ? C'est des millions de milliards de kilomètres de câbles en cuivre. Ce sont des serveurs, ce sont des data centers, ce sont des fusées qui doivent envoyer des satellites et avec des ordinateurs qui doivent calculer la bonne orbite. Et donc, pour pouvoir mettre ces satellites sur la bonne orbite de manière à ce que ces satellites nous renvoient l'information en temps réel et nous géolocalisent sur nos téléphones portables. Et ça, c'est quoi ? C'est de la matière physique, ce sont des métaux rares. Et donc, sous couvert de nous affranchir de la matière, eh bien, en réalité, nous sommes retrouvés dans un système qui nécessite le recours exponentiel à toujours plus de métaux rares.
Guillaume Pitron, auteur de La guerre des métaux rares, la face cachée de la transition énergétique et numérique aux éditions Les Liens qui libèrent. Éloi Laurent, l'impact du numérique est colossal d'un point de vue environnemental et il est aussi pervers pour nos sociétés.
Ce qui est problématique dans cet argument, c'est que ça laisse entendre que le problème, c'est la transition énergétique bas carbone. Il faut prendre une perspective beaucoup plus large que ça, d'accord ? Les systèmes économiques aujourd'hui n'ont jamais extrait autant de ressources naturelles. Ça va bien au-delà de la question des terres rares et ça va bien au-delà de la question de la transition énergétique. Et la transition, ou plutôt la stagnation énergétique, c'est-à-dire le fait qu'il y a 80% d'énergie fossile aujourd'hui, c'est infiniment plus destructeur des ressources naturelles sur la planète que le fait d'avoir une transition énergétique bas carbone. Donc il ne faut surtout pas se tromper d'argument. Hein. La transition énergétique bas carbone est nécessaire. Et les terres rares représentent une part absolument minuscule de ce qui se passe aujourd'hui en matière de rematérialisation des systèmes économiques. La vraie question sur laquelle il faut se concentrer, c'est que alors qu'on nous a annoncé une transition numérique qui dématérialise l'économie, l'économie est en train de se rematérialiser. Quand vous regardez les indicateurs, c'est pas seulement le fait que les volumes d'extraction continuent à croître, même s'ils croissent moins vite que l'activité économique, ce qu'on appelle le découplage relatif, c'est qu'aujourd'hui, il y a recouplage. C'est-à-dire que les extractions et les consommations de ressources naturelles vont y compris plus vite que les extractions, que la production d'activité économique. Donc, si vous voulez, on est dans un monde, le rapport de 2017 des Nations Unies est absolument fascinant de ce point de vue-là, où on n'a jamais autant consommé extrait, consommé de ressources naturelles et jamais eu autant de pollution. Donc toute cette illusion de la transition numérique, de la dématérialisation, qui est la grande promesse, le fait qu'on va arrêter de surconsommer les ressources naturelles grâce au numérique, c'est une illusion totale. On va arrêter d'avoir des flux de transport qui sont aussi polluants, etc. C'est une illusion totale. Je montre avec chiffres à l'appui qu'en fait, les flux de transport n'ont jamais été aussi importants. C'est vrai pour les flux lointains, c'est vrai pour les flux proches. Pensez à la congestion qui est en train de s'emparer de toutes les grandes villes du monde du fait de ce magnifique système d'Amazon qui est censé être totalement immatériel. Vous appuyez sur un clic, le paquet arrive comme par magie chez vous. Non, il n'arrive pas comme par magie.
Il y a quelqu'un qui livre dans son camion.
Les routes sont pleines de poids lourds, les rues sont pleines d'utilitaires diesel et tout ça fait des quantités de pollution astronomiques et des quantités de déchets astronomiques. Donc, la vraie question, c'est ça. C'est que la transition numérique promet une illusion qui est la dématérialisation des systèmes économiques, que évidemment la croissance favorise parce que tout ce qu'on comptabilise, c'est l'augmentation du PIB et pas les pollutions supplémentaires. Et qu'en réalité, avec les bons indicateurs de pollution, de déchets, etc., vous démystifiez complètement cette croissance du numérique pour montrer qu'en fait, c'est une rematérialisation extrêmement destructrice des écosystèmes.
Sans compter qu'elle est aussi destructrice pour les humains, hein, vous le montrez bien, ça crée une solitude énorme. Souvent, cette révolution numérique, au lieu de créer du lien social.
L'autre promesse, il y a deux grandes promesses hein, de la transition numérique. La première promesse, c'est la dématérialisation qui serait censée atténuer les crises écologiques. C'est exactement le contraire qu'on observe. La deuxième promesse, c'est l'accélération de la coopération humaine et de la connexion sociale. On voit à peu près l'inverse. C'est-à-dire que la connexion numérique, en fait, induit une déconnexion sociale. Les gens sont, en fait, particulièrement des études qu'on a sur les États-Unis le montrent, augmentent, grosso modo, plus on augmente la consommation d'Internet, les SMS, les jeux vidéo, etc., et plus deux choses diminuent, le sommeil et les relations sociales. C'est-à-dire le fait de pouvoir se reposer, ce qui est quand même utile dans la vie, et le fait de voir d'autres gens qui est la source du bonheur, on l'a dit. La vraie source fondamentale du bonheur, c'est voir des gens, partager avec les gens, les aimer, etc. C'est précisément ce que le numérique attaque.
Donc, il faut se méfier de cette révolution numérique qui est là aussi, comme les indicateurs de la croissance annoncés à corps et à cri, comme une des solutions pour la transition écologique et aussi comme une des solutions pour nous rendre plus heureux. Ça, on nous le vend bien.
Je crois que c'est le visage moderne et souriant de la croissance et que c'est pour d'autres raisons, mais des raisons presque encore plus importantes que les problèmes que pose la croissance industrielle, une mystification. C'est vraiment une mythologie. Et d'ailleurs, on voit bien, le monde est en train de se retourner. Il y a encore 5 ans, vous disiez la transition numérique est un problème écologique et social. On vous riait au nez en vous expliquant que vous vouliez retourner à l'âge de la bougie. Aujourd'hui, aux États-Unis, vous avez dans la presse des gens qui disent il faut casser Facebook en deux parce que c'est un danger pour notre démocratie. Et des gens qui commencent à comprendre qu'avec 1,5 million de paquets délivrés par jour à New York, Amazon est en train de devenir un problème pour les villes. Mais qui, par ailleurs, Amazon, etc., qui utilise bien sûr les biens publics, les biens communs, sans y contribuer, en ne payant
sans
pas ses impôts, mais en augmentant évidemment les pollutions, la congestion et tous les dégâts sociaux et environnementaux. Comment on mesure ça? Comment on mesure le fait qu'une entreprise comme ça est en fait une entreprise qui est en sécession fiscale et sociale et qui est une entreprise destructrice de l'environnement? Si vous prenez le PIB, vous ne le mesurerez jamais parce que vous ne mesurerez que l'augmentation monétaire liée effectivement à ce volume astronomique de biens et services qui sont vendus sur Amazon, qui vend à peu près tout, mais vous ne mesurerez pas la destruction.
Alors comment sortir de la croissance? Comment trouver de nouveaux indicateurs et assurer un avenir durable et confortable à l'humanité? On en parle après une pause musicale en compagnie de Anna Tijoux.
Venenos tus monologos, tus discursos incoloros, no ves que no estamos solos, millones de polo a polo, al son de un solo coro, marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo, tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro, no, la hora sonó, la hora sonó, no permitiremos más, más tu doctrina del shock, la hora sonó, 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 la hora sonó. Países solo corporaciones, quién tiene más, más, más acciones, trozos gordos, poderosos, decisiones por muy pocos, constitución pinochetista, derecho pues de hilando fascista, golpista disfrazado de un indulto elitista, cae la gota, cae la bolsa, la toma, se toma la máquina, rota la calle, no calle, la calle se raya, la calle no calle, debate que estalla, todo lo quitan, todo lo venden, todo se lucra, la vida, la muerte, todo es negocio, bajo tu tonto semilla, pascuala, metido seguro. Tus monólogos, tus discursos incoloros, no ves que no estamos solos, millones de polo a polo, al son de un solo coro, marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo, tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro, no, la hora sonó, la hora sonó, no permitiremos más, más tu doctrina del shock.
Anna Tijoux dans C'est pas du vent sur RFI.
Comme il frappe, comme il frappe fort ce soleil, ce soleil, ce soleil, ce soleil.
Des questions, des témoignages, des idées, écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr.
Et nous sommes en compagnie de l'économiste Éloi Laurent aujourd'hui qui vient de publier Sortir de la croissance, mode d'emploi aux éditions Les liens qui libèrent. Alors Éloi Laurent, vous écrivez que pour sortir de la croissance, il faut travailler sur les 3 horizons de l'humanité au 21e siècle que sont le bien-être, vous nous en avez parlé, la résilience et la soutenabilité qui échappent aujourd'hui à tous nos systèmes de mesure et de pilotage économique. Alors le bien-être, on a à peu près compris de quoi il s'agissait. La résilience, c'est quoi ?
La résilience, c'est le bien-être demain et la soutenabilité, c'est le bien-être après-demain. En fait, il faut vraiment comprendre que ce sont 3 temps, 3 horizons du bien-être, mais on parle toujours de la même chose. Le bien-être humain, c'est aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que votre vie est agréable ? On l'a dit, c'est pas seulement le revenu en fait partie, personne ne nie ça, c'est juste qu'il faut élargir la focale. Il y a l'éducation, il y a la santé, etc. Et quand le revenu se met à détruire tout le reste, c'est là que ça devient préoccupant. Typiquement un pays comme les États-Unis, pour revenir sur la question du bien-être d'un mot, la question fondamentale à comprendre, c'est que c'est pas la croissance qui crée la richesse, c'est la richesse qui crée la croissance. Ce qui fait on l'a dit, c'est la coopération sociale, c'est le développement humain. C'est ça qui sous-tend ce qui est la mesure superficielle de la croissance. Et si vous décidez de faire des politiques de croissance qui attaquent les moteurs fondamentaux du développement humain et les raisons essentielles de la coopération sociale, là, vous êtes en danger.
Et les États-Unis sont une caricature pour
ça. Les États-Unis sont une caricature. C'est un pays qui se vante d'avoir 3% de croissance, ce qui est vrai, du PIB. C'est un pays dont les infrastructures sont absolument en train de s'effondrer. Les ponts, les routes, regardez ce qui se passe en Californie. Le problème fondamental, c'est les infrastructures d'énergie qui provoquent des incendies massifs à répétition à tel point qu'on est obligé de faire des blackouts pour prévenir de nouveaux incendies. Donc, des gens qui sont sans électricité parce que ça fait grosso modo 40 ans que plus personne n'investit aux États-Unis, le métro de New York est grosso modo en ruine. Enfin, les infrastructures partout aux États-Unis s'effondrent et on a une croissance économique magnifique. Pourquoi ? Parce qu'elle est tirée par le 1% les plus riches, la finance et les inégalités. C'est une croissance tirée par les inégalités fondamentalement. Et tout le reste est à peu près en train de s'affaiblir, à commencer par la santé. L'espérance de vie recule alors que la croissance augmente. Il n'y a pas de plus belle illustration de la croissance comme illusion. Ça, c'est le bien-être aujourd'hui. Mais ce qui nous intéresse évidemment au siècle des chocs écologiques, c'est demain. Qu'est-ce qui se passe demain pour le bien-être si, en apparence, tout va bien et puis tout d'un coup, l'air est irrespirable, l'eau devient imbuvable, l'alimentation n'est plus consommable. Donc ça, c'est la résilience en cas de choc. S'il y a un choc massif sur les systèmes d'approvisionnement en eau, sur les réseaux d'alimentation, hein, c'est comme ça qu'est née toute la problématique de l'effondrement. L'effondrement, ce sont des gens qui ont travaillé sur les systèmes d'alimentation, sur la question de l'alimentation et le fait que les réseaux d'alimentation pouvaient s'effondrer. Donc, est-ce qu'on a des systèmes qui peuvent résister à ça ? On parlait de biodiversité tout à l'heure. Qu'est-ce qui fait qu'un système énergétique est résilient ? C'est s'il est décentralisé. Plus c'est centralisé, plus évidemment, s'il y a un choc sur l'approvisionnement central, tout le système, du coup, va s'effondrer. Si vous avez, au contraire, différents centres, et donc un système décentralisé, c'est beaucoup plus résilient. C'est ce que nous apprend la nature. La biodiversité, c'est la source de la résilience. Et puis, le troisième horizon, c'est la soutenabilité. Et ça consiste tout simplement à dire que le bien-être aujourd'hui, voire demain, n'est durable que s'il est en harmonie avec la biosphère. S'il se nourrit de la destruction de la biosphère, en fait, il scie la branche sur laquelle il est assis puisqu'il détruit ses fondements même. Et ça, c'est l'exemple de la Chine. Oui, la Chine, vous avez 500 millions, 700 millions de personnes qui sont sorties de la pauvreté. Elles vont y retomber dans la pauvreté dans les 10, 15 ou 20 prochaines années si les écosystèmes s'effondrent. Donc, ça n'aura été qu'une illusion. Une illusion qui aura duré 40 ans, mais une illusion totale. Et ensuite, évidemment, ce sera la famine, les violences civiles, etc. et un pays totalement livré au chaos. Il n'y a pas de pays qui peut survivre sans ces écosystèmes. C'est impossible. Donc, si on fait du bien-être au détriment des écosystèmes, en fait, ce n'est pas du bien-être. Et c'est ça, l'horizon de la soutenabilité.
Il y a plusieurs échelles. Hein. C'est la fin de votre livre auquel nous pouvons intervenir. Vous parlez de l'Union européenne, vous parlez de l'échelle nationale. Vous donniez l'exemple de la Finlande et de la Nouvelle-Zélande tout à l'heure. Et puis, il y a aussi au niveau des territoires, des régions, des villes. Je vous propose d'écouter un bel exemple de conversion, même si c'est un exemple américain, malgré ce que vous venez de dire. C'est la ville de Pittsburgh, dans l'État de Pennsylvanie. Nous avons rencontré son maire, Bill Petudo, lors du Global Climate Action Summit à San Francisco il y a quelques mois.
Pittsburgh, c'est l'image de l'Amérique qui s'est retombée sur ses pattes. Dans les années 1980, nous sommes pratiquement morts. Notre économie s'est effondrée du fait de l'effondrement de l'industrie de l'acier et nous avons donc dû nous réinventer. Et nous avions bien compris à ce moment-là que même si nous étions fiers de qui nous étions, nous avons compris que notre avenir allait être complètement différent. Et aujourd'hui, Pittsburgh est la ville où il y a plus d'emplois dans les énergies renouvelables que dans les énergies fossiles.
En juin 2017, quand Donald Trump a annoncé qu'il souhaitait retirer les États-Unis de l'accord de Paris, un de ses arguments a été « J'ai été élu pour représenter les citoyens de Pittsburgh, non pas ceux de Paris ». Comment avez-vous réagi à ce moment-là ?
I was shocked. First, I was upset of his decision.
Eh bien, tout d'abord, je dirais que j'ai été choquée. D'une part, j'étais consternée par cette décision. Et sur le plan personnel, je connais bien les sacrifices consentis par la population de Pittsburgh. Les gens ont vu leurs proches, leurs amis partir de Pittsburgh parce qu'il n'y avait pas plus d'emploi. Et vous savez, cette transition d'une industrie lourde au secteur de la science, au secteur médical, au secteur de la technologie, eh bien, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Il a fallu l'engagement de toute la population de Pittsburgh. Et je dirais que le président a simplement utilisé un stéréotype, une image du Pittsburgh d'hier, pour faire une déclaration de choc.
Et si vous êtes venu ici au Global
Climate Action Summit, c'est aussi pour montrer cette image d'une Amérique qui est engagée dans la transition écologique.
Lorsque le président a fait cette déclaration, il y avait 61 villes américaines qui s'étaient déclarées comme étant des villes du climat partout aux États-Unis et qui avaient dit « nous allons respecter l'accord de Paris ». Aujourd'hui, il y a 407 villes de ce type. Alors, ce sont des villes qui ont des maires démocrates, qui ont des maires républicains, mais surtout qui ont des maires pragmatiques, qui comprennent bien le rôle vital que doivent jouer les États-Unis pour prendre soin de la planète.
Bill Petuto, le maire de Pittsburgh, voilà un beau pied de nez, Éloi Laurent, à Donald Trump.
Oui, alors c'est très intéressant pour deux raisons. La première raison, c'est que vous disiez, bah voilà effectivement un contre-exemple. Et en effet, les villes américaines, les régions américaines, comme la Californie, il y a Pittsburgh, il y a aussi Détroit, Los Angeles, Baltimore, San José, Santa Monica, sont dans une transition du bien-être, s'engagent dans une transition du bien-être. À Santa Monica, par exemple, il y a une initiative pour mesurer le bien-être des habitants indépendamment de la question de l'attractivité, du profit, de la croissance, alors que le gouvernement fédéral est dans une espèce de course en avant à la croissance, où grosso modo, ils vont jeter à peu près tout dans la chaudière pour faire 3% de croissance jusqu'à ce qu'il n'y ait à peu près plus rien debout aux États-Unis. Il n'y aura plus d'éducation, plus de santé, il n'y aura plus d'infrastructures, mais il y aura la croissance. Voilà. Donc tout aura disparu, excepté la croissance, et là, Donald Trump sera content. Donc c'est intéressant parce que la contre-révolution du bien-être aux États-Unis, elle est menée précisément par les villes. Et c'est intéressant au plan mondial parce que les villes sont des acteurs absolument essentiels de cette transition du bien-être. Ce que je propose d'un petit peu original, c'est 50 pages de propositions sur comment concrètement on fait pour sortir de la croissance. Et mon idée essentielle, c'est il faut aller chercher la croissance là où elle s'est incrustée, c'est-à-dire dans les procédures de décision budgétaire. Ça peut paraître technique, mais n'importe quel habitant du monde, que ce soit en Afrique, en France, aux États-Unis, comprend qu'il est dans une ville et que dans sa ville, il y a une allocation des ressources qui est décidée une fois par an, deux fois par an, où il y a des gens qui se réunissent pour dire on va investir là, pas là, nos ressources qu'on a réussi à prélever sous forme d'impôts, de prélèvements, etc., on va les utiliser pour telle ou telle dépense. Et bien, si on prend ces décisions d'allocation de ressources avec comme idée d'augmenter la croissance, c'est une catastrophe. Et donc, je propose de changer là où ça doit être changé, c'est-à-dire le cœur du réacteur, qui est la décision d'allocation des ressources à tous les niveaux de gouvernement, au niveau des entreprises, au niveau des villes, au niveau des régions, au niveau des États, au niveau des organisations comme l'Union européenne et au niveau des Nations unies. Bon, il n'y a pas de budget dans les Nations unies, excepté pour le fonctionnement des Nations unies, mais enfin, il y a quand même des grandes lignes. Par contre, il y a des budgets au niveau européen, il y a des budgets au niveau de chaque État, et il y a des budgets au niveau de chaque ville. Donc, qu'on se pose la question, est-ce que ces décisions d'allocation de ressources, qui sont rares, sont faites en fonction du bien-être des habitants ou alors d'autres considérations comme par exemple l'attractivité ou le profit. Alors l'attractivité, c'est formidable, c'est-à-dire c'est le bien-être des gens qui n'habitent pas dans les villes en question. Et donc on va faire des politiques publiques pour attirer des gens qui n'y vivent pas en négligeant le bien-être des gens qui y habitent.
C'est un formidable ironique.
Oui, voilà, c'est un petit peu ironique. Et donc voilà, donc Pittsburgh est très intéressant, mais comme plein d'autres villes dans le monde, parce qu'il y a plein d'autres villes au Ghana, partout dans le monde, qui effectivement sont des lieux de transition. Pourquoi ? Parce que les villes effectivement ont cette particularité qui est qu'elles ont sur les bras à peu près des problèmes identiques, les déchets, l'énergie, l'eau, etc. Et qu'elles sont en un sens libérées des considérations du type c'est quoi notre identité, pourquoi on va se battre contre le voisin, etc. Ce qui fait que effectivement les maires et les mairesses partout dans le monde sont des acteurs beaucoup plus rapides en fait de cette transition du bien-être que les États-nations.
Voilà, et si on veut en savoir plus sur la transition du bien-être, comme vous le disiez, il suffit de lire votre livre. Hein. En fait, c'est aussi simple que ça. Il y a plus que 50 pages d'intéressantes. C'est un livre passionnant qui nous remet un peu les pendules à l'heure, on va dire. Merci beaucoup, Éloi Laurent, d'être passé dans C'est pas du vent. Merci à François Porcheron pour la réalisation de cette émission et à vous pour votre fidélité. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve demain, même planète, même heure. Couleur trop